France Info.
Bonsoir à tous. Beaucoup de questions ce soir dans les informés autour du retour de l'État islamique qui revendique, vous le savez, l'attentat de Moscou. Avec ce soir un Vladimir Poutine qui évoque des islamistes radicaux mais qui continue à cibler l'Ukraine. Sylvain Tronchet, le correspondant de France Info à Moscou, essaiera de nous faire la traduction de tout ça. En France, Vigipirate de nouveau au seuil urgence attentat, c'est-à-dire le plus élevé, 4 mois pile avant le lancement. Le démarrage des Jeux Olympiques et Paralympiques. 2 attentats ont été évités depuis le début de l'année, c'est ce que dit de son côté Gabriel Attal. On parle de tout ça avec l'expert des informés qui est ce soir Guillaume Ancel, qui nous éclairera aussi d'ailleurs sur l'information du jour concernant Gaza, puisque pour la première fois, le Conseil de sécurité de l'ONU exige un cessez-le-feu immédiat. Les Américains, c'est à noter, se sont abstenus. Et puis, comment la France traite-t-elle ses enfants et adultes handicapés ? Y a-t-il un risque de maltraitance systémique dans les centres spécialisés? Comment mieux contrôler, mieux prendre en charge comme après le scandale Orpea pour les EHPAD, le gouvernement lance en tout cas un grand plan suite à un documentaire diffusé hier soir sur M6. On parle de tout ça avec nos informés qui sont ce soir Paul Quignot, directeur délégué de la rédaction de Libération, Patricia Alémonière à côté de vous, grand reporter spécialiste des questions internationales et auteur du livre Au cœur du chaos aux éditions Artaud, et Quentin Calmet, journaliste politique et parlementaire à Public Sénat. Bonsoir et bienvenue à tous.
Bonsoir.
Les quatre. Et d'abord Moscou, Sylvain Tronchet, bonsoir.
Bonsoir Béranger.
Correspondant bonsoir. De France Info en Russie. D'abord les toutes dernières infos concernant l'enquête sur l'attentat au Crocus City Hall près de Moscou. Le dernier bilan, parce qu'il n'est pas forcément, il y a plusieurs versions qui circulent ici. Comment avance l'enquête et combien de personnes en fait sont interrogées? On parle de 3 nouveaux suspects interpellés.
Oui, qui seraient des suspects périphériques, hein, j'ai envie de dire. Ils sont présentés en tout cas comme tels par le comité d'enquête russe. Ils auraient fourni la voiture, la Clio notamment, qui a servi à transporter le commando. Mais les 4 premiers qui avaient été fédérés cette nuit sont présentés comme étant les membres du commando qui ont attaqué le Crocus City Hall. En ce qui concerne le bilan, je dirais qu'il évolue quasiment d'heure finalement, parce qu'il y a un bilan officiel, il y a un bilan officieux également qui circule sur les réseaux sociaux. Il n'est toujours pas stabilisé, on est à un peu moins de 150 morts, pour dire les choses à gros traits, ce qui est absolument abominable, il est possible qu'il reste encore des corps dans les décombres, et par ailleurs un certain nombre de blessés se trouvent toujours dans un état critique dans les hôpitaux moscovites.
Alors Sylvain, il y a toujours un énorme tabou autour à Moscou, autour de la revendication de l'État islamique. Vladimir Poutine a pris la parole ce soir, on va l'écouter, puis vous allez nous aider à comprendre.
Nous savons que ce crime a été commis par des islamistes radicaux, dont l'idéologie est combattue par le monde islamique lui-même depuis des siècles. Bien entendu, il est important de répondre à la question de savoir pourquoi les terroristes, après leur crime, ont essayé de partir en Ukraine. Qui les attendait là-bas?
Voilà. Donc, il parle à la fois d'islam radical, Sylvain, et il continue à faire le lien avec l'Ukraine, comme c'est le cas depuis le début. Expliquez-nous.
Bon, depuis 48 heures, on avait bien compris, de toute façon, parce que Vladimir Poutine avait donné le ton, et que toute la chaîne propagandiste du Kremlin, qui a ses relais connus, que ce soit Margarita Simonian, la grande patronne de RT, que ce soit Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Vladimir Soloviov, le présentateur de talk show, toute la chaîne de propagande s'était mise en branle pour désigner l'Ukraine comme commanditaire de cet attentat. Et Vladimir Poutine avait donné le ton il y a 48 heures. Donc on savait, à partir du moment où les choses sont installées comme cela en Russie, c'est un train sur des rails, les choses ne vont pas dévier. Ce qu'on ne savait pas, c'était comment Vladimir Poutine, finalement, allait réussir à s'en sortir face à un certain nombre d'évidences, quand même, qui, dans le même temps, désignaient le terrorisme islamiste. Eh bien, il l'a fait de la façon la plus simple possible, en quelque sorte. Il dit, oui, ce sont des terroristes islamistes, mais comme les États-Unis mettent beaucoup de soin à essayer de dire que c'est l'État islamique, eh bien, donc, ça veut dire que ça n'est pas l'État islamique. Il faut suivre sa logique derrière. Et par ailleurs, les terroristes se dirigeaient vers l'Ukraine, donc suivez mon regard, et il se trouve que le régime de Kiev est en train de créer de nouvelles jeunesses hitlériennes, c'est ce qu'il a dit aussi ce soir. Donc, sous-entendu, on voit très bien la version russe qui est en train de se construire, qui est que ces terroristes islamistes auraient été manipulés par le régime de Kiev dans le but de déstabiliser la Russie. Je devance, je pense, de quelques jours les conclusions du comité d'enquête.
Alors, c'est très intéressant et on va pouvoir en débattre autour de la table. Juste encore un mot, Sylvain, un attentat avec un tel bilan, les Russes n'avaient pas connu ça depuis une vingtaine d'années avec la prise d'otage de Beslan. Comment le pays vit tout ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Alors, il y a un choc immense, une tristesse immense, elle est palpable, on la ressent, ça c'est très clair. Concernant les commanditaires ou les exécutants, pour avoir parlé sur les lieux d'ailleurs que l'on voit à l'image actuellement du Crocus City hier avec pas mal de monde, on ne peut pas dire que tous les Russes adhèrent à la version du Kremlin, loin de là. Il y a beaucoup de Russes qui, même au micro, m'ont dit qu'ils ne croyaient pas à la version, du moins à l'implication de l'Ukraine, ou en tout cas qu'ils étaient troublés, que les choses ne leur semblaient pas claires. Ce qui m'a marqué surtout beaucoup, c'est que beaucoup de Russes ont mis en cause les défaillances des systèmes des services de sécurité, parce qu'au fond, ça écorne un peu le contrat social qui est passé entre Vladimir Poutine et sa population. Enfin, je ne sais pas si tout le monde est très libre de signer, mais qui dit en gros... Nous restreignons vos libertés individuelles, mais en contrepartie, nous vous garantissons la stabilité et la sécurité. Il se trouve que là, la sécurité a été sérieusement ébranlée, et beaucoup de gens qui viennent comme ça à notre micro critiquer les forces de sécurité dans un pays où les siloviki, comme on les appelle, hein, les structures de force, représentent la colonne vertébrale de la Russie. Ça n'est pas complètement anodin, mais il y a d'abord un choc et une sidération absolument immense qui s'est emparée du pays.
Bon, vous restez avec nous, Sylvain Tronchet. On va faire un détour par le Fil Info, puisqu'il est 20h10, et on échange avec nos informés sur tout ça. Le Fil Info, c'est Emmanuel Langlois.
Après plus de 5 mois de guerre, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte sa première résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza, appel qui avait été bloqué à plusieurs reprises par les États-Unis, qui se sont cette fois abstenus. La résolution adoptée exige également la libération de tous les otages détenus par le Hamas dans l'enclave palestinienne. Sur le terrain, Israël a poursuivi ce lundi ses opérations armées autour de 2 hôpitaux de la ville de Gaza et de Khan Younes. À la demande de la Russie, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont par ailleurs observé une minute de silence en mémoire des victimes de l'attentat de vendredi dans une salle de concert près de Moscou. Le tribunal correctionnel de Grasse lui relaxe le groupe Orpea et 2 autres prévenus. Ils étaient poursuivis pour la mort de 3 pensionnaires d'un EHPAD en 2015 lors d'inondations sur la commune de Biot dans les Alpes-Maritimes. L'ex-maire de Biot est lui condamné à 1 an de prison avec sursis. Enfin, après 3 années d'agitation et de crise, voilà qui s'apparenterait à un séisme politique au Sénégal, où la victoire de l'opposant anti-système Bassirou Diomaye se dessine après l'élection présidentielle d'hier. Le candidat du pouvoir, Amadou Ba, a reconnu sa victoire dès le premier tour et l'a même félicité.
France Info. 20h-21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
En compagnie ce soir de Paul Quignot de Libération, Patricia Alémonière, spécialiste des questions internationales, Quentin Calmet de Public Sénat et Guillaume Ancel, ancien officier écrivain. Et je me tourne vers vous. On va revenir sur tous les éléments, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes dans ce qu'a dit Sylvain Tronchet. D'abord, notre expert que vous êtes, je voudrais que vous nous disiez, le « i » est de retour. Il y a un mode de revendication qui est clair. Il y a une branche afghane. Expliquez-nous un peu ce que tout ça vous dit.
L'attentat près de Moscou ne fait pas de doute sur qui l'a commis. Pourquoi ? Parce que le mode opératoire, c'est celui du Bataclan, qui est assez classique pour ce genre d'organisation, ce qui n'est absolument pas le cas des Ukrainiens. Si les Ukrainiens s'étaient permis de faire ça, ils perdaient immédiatement le soutien des 50 pays alliés. D'autre part, cet attentat ressemble étrangement à celui qui a été commis en Iran au mois de janvier. Donc on est sur un mode de faire qu'on connaît bien. Il a été revendiqué sur Telegram, qui est leur canal habituel de revendication sur le sujet, donc c'est plutôt authentifié. Et surtout, les Américains avaient intercepté des communications début mars, qu'en tout cas ils ont révélé aux Russes publiquement, en leur disant « Nous avons l'information que l'État islamique prépare un attentat sur un spectacle. »
Il y a des grands rassemblements, oui.
À Moscou. Et donc, voilà, on a tous les éléments pour savoir ce qu'est cet attentat et qui l'a commis.
Ils avaient conscience, donc, ils avaient connaissance de la menace. Notamment parce que je dis ça parce que le FSB évoque une début mars, le 7 mars, le FSB oui. annonce avoir tué des membres hein, de l'EI. Oui,
même pratiquement le même jour, les Américains ont lancé cette alerte. Mais les Américains avaient précisé que pour 48 heures et immédiatement après, enfin quelques jours plus tard, Vladimir Poutine avait dit que cette annonce américaine, en tout cas, eh bien, était simplement là pour déstabiliser la Russie dans sa guerre vis-à-vis de l'Ukraine. Mmh. Donc il avait botté en touche et c'était une déclaration totalement publique, si vous voulez. Alors que cette menace de l'État islamique vis-à-vis de la Russie est ancienne. Il y a eu bon nombre d'attentats, plus de 19 pratiquement. Alors il y a eu des vrais attentats.
Il faut expliquer sans doute pourquoi l'EI vise la Russie.
Alors l'EI vise la Russie parce que... aux yeux de l'EI, l'EI d'abord au Khorasan, hein, c'est ça, en Afghanistan, en fait est une branche qui lutte contre les talibans. Or aujourd'hui, les Russes sont alliés aux talibans et leur livrent du blé. Donc ça facilite pas les rapports. Les Russes sont associés à cette guerre menée par Bachar al-Assad contre l'EI en Syrie. La Russie est alliée, enfin est en au Sahel plus exactement, et lutte là encore contre des branches de l'État islamique. Donc la Russie est en lutte contre l'État islamique. Et en plus, la Russie représente les infidèles, les croisés, voilà. Même si, pourtant, la Russie de Vladimir Poutine a toujours hésité à pointer du doigt l'islam dans le terrorisme international, parce qu'il y a 15% de musulmans quand même dans la fédération.
Mais comme le disait Paul Quignot à l'instant, effectivement, Vladimir Poutine est en défense des chrétiens.
Ouais, mais vis-à-vis de l'islam, il est un peu, il essaye d'être modéré. Paradoxalement, oui, parce qu'il a besoin des pays musulmans pour vendre.
La Russie est aussi alliée à l'Iran, qui est aussi un ennemi de l'EI, donc ça, c'est une raison supplémentaire.
Alors, malgré tout ça, on se retrouve avec un Vladimir Poutine, et Sylvain Tronchet le disait, qui maintient, alors le contexte de la guerre en Ukraine depuis 2 ans est évidemment très, très présent. Comment expliquer cette espèce de grand écart Guillaume Ancel, comment vous avez entendu, vous, la déclaration de Vladimir Poutine ce soir ?
Vladimir Poutine, d'abord, est totalement obsédé par son idée de soumettre l'Ukraine. Donc tout doit s'effacer par rapport à ça. Et je pense qu'il a été le premier surpris et fragilisé par cet attentat parce que ça rentrait pas dans son plan. On se souvient qu'on était dans une séquence, je me fais réélire tel l'empereur Bokassa, c'est moi-même qui ai annoncé le résultat avant que le scrutin ait eu lieu. Après, je fais célébrer ma toute-puissance. Je montre surtout que mon pouvoir repose sur la terreur que j'inspire, et que personne ne devrait s'opposer à nous. Après, il prend dans le viseur, en particulier le président Macron et la France, qui osent essayer de mobiliser l'Europe pour dire on peut pas laisser faire les Russes en Ukraine. Et là, on a une volée absolument extraordinaire entre Piotr Tolstoï, le vice-président de la Douma, après Dmitri Peskov, le porte-parole de Poutine, pour nous dire les pires horreurs, les pires menaces, bien nous montrer que on va être écrasé puisqu'on ose s'opposer à Poutine. Et là, c'est l'État islamique qui commet un attentat dans une ville hyper sécurisée, pour ne pas dire à moitié paranoïaque, à quelques minutes d'une base de la garde fédérale russe qui est notamment en charge de la sécurité de Moscou. Et alors même que les Américains ont prévenu qu'il y avait un risque intensif, mais Poutine s'est planté dans les grandes largeurs, j'oserais dire, pardon du raccourci, ça ressemble à Netanyahou face à l'attaque terroriste de début octobre. Il est complètement à côté de la plaque sur le sujet, alors que tout son discours consiste à raconter aux Russes qu'avec lui, on rétablit l'ordre. Ben non, c'est le désordre.
Question pour vous et Sylvain Tronchet, je voudrais aussi votre avis et les autres d'ailleurs, mais maintenant que l'EI a revendiqué, est-ce qu'on peut affirmer que les autorités ukrainiennes n'ont rien à voir avec cet attentat? Vous battez pas pour répondre.
Je le fais avec plaisir.
Alors, Sylvain Tronchet,
Pardon.
Très honnêtement, je ne sais pas si je peux répondre à cette question. Enfin, je ne suis pas dans l'enquête. Encore une fois, moi, je m'en remets aux experts. Guillaume Ancel l'a expliqué, qui disent que la revendication de l'EI est tout à fait crédible. Il y a par ailleurs un contexte, effectivement, qui rend crédible une attaque menée par Daesh sur le sol russe.
Sur le lieu où on les a interpellés.
Et par ailleurs, j'aurais tendance à dire que Si le, parce que ça a été évoqué aussi, les théories complotistes circulent beaucoup, si les Russes avaient voulu monter une opération tendant à impliquer l'Ukraine sur leur territoire, ils auraient très probablement choisi quelque chose et un scénario beaucoup plus évident pour désigner l'Ukraine. Là, on le voit, Vladimir Poutine lui-même est obligé de se livrer à des contorsions absolument invraisemblables pour réussir à rassembler tout le fil de cette histoire et finalement faire en sorte que tout se tende vers Kiev. Ça paraît extrêmement compliqué. Donc, en tout état de cause, on doit reconnaître que l'hypothèse la plus probable, il y a un élément que Guillaume Ancel n'a pas évoqué, mais qui est la nationalité du commando aussi, qui plaide en cette faveur. On sait que le Tadjikistan a fourni dans le passé, encore aujourd'hui, des bataillons de combattants à l'État islamique. Et c'est parfaitement avec le profil des suspects qui, pour le coup, sont présentés par la justice russe.
Ouais, c'est précisément les contorsions qui me faisaient poser cette question, parce que comme Vladimir Poutine continue à cibler l'Ukraine, explique que les assaillants tentaient de fuir vers l'Ukraine.
C'est un scénario absolument dingo.
Non, mais on est d'accord, mais c'est bien d'écarter
Zelensky a trop besoin des Occidentaux dans sa guerre contre Poutine pour faire une bêtise pareille. Donc cette hypothèse-là, elle me semble totalement farfelue. Après, est-ce qu'il pourrait y avoir des factions pro-ukrainiennes, mais peut-être pro-recommandables qu'il y aurait, mais c'est vraiment des hypothèses farfelues. Donc, c'est pas sérieux.
À la question que pose Poutine, mais pourquoi ce commando repartait vers l'Ukraine? Mais pardon, il n'est jamais reparti vers l'Ukraine. Oui. Vous imaginez un commando comme ça, traverser la frontière en guerre entre la Russie et l'Ukraine? Les Russes, évidemment, auraient bloqué la frontière et je pense que...
Je cherche toujours, moi, le fond de vérité qui laisse cet ordre.
Alors, ce dont on est sûr, c'est qu'ils sont dirigés vers la Biélorussie.
Après, il y a 190 km, l'Ukraine à 150.
Voilà. Quand
si on prend le lieu où ont été interpellés les quatre assaillants qui ont été arrêtés effectivement dès le lendemain matin. 150 km de l'Ukraine et cette frontière ultra militarisée où il y a le conflit avec toutes les armées et les mines, etc. Et 190 km avec la Biélorussie, sachant qu'en plus on a eu des porte-paroles de la Biélorussie qui se sont félicités de ce bon travail entre la Russie et la Biélorussie pour arrêter ces assaillants à cet endroit-là. Donc la théorie selon laquelle ils fuyaient vers la Biélorussie, elle fonctionne aussi autant qu'avec l'Ukraine.
Ça fonctionne pas plus parce qu'en Biélorussie, c'est comme si vous étiez en Russie. Et donc, vous êtes aussi, c'est pas la porte de sortie, la Biélorussie, c'est la porte où vous pouvez aussi être arrêté. C'est la porte où vous pouvez passer plus facilement pour passer après en Occident. On sait quand même que l'œil du Khorasan avait une capacité aujourd'hui à se projeter à l'extérieur, et cette capacité passe par tous les pays. Elle passe aussi bien par la Russie, elle passe aussi bien par l'Ukraine, elle passe même par l'Iran, si vous voulez. Oui, ils ont des capacités de projeter leur personnel dans toutes ces régions-là.
20h21, c'est l'heure du fil info. Je vois Sylvain Tronchet qui veut réagir juste après donc le fil info d'Emmanuel Langlois.
Et à 4 mois des Jeux Olympiques, la France est à nouveau en alerte maximale face à la menace d'attentats. Gabriel Attal annonce le déblocage de moyens exceptionnels partout sur le territoire avec 4000 militaires supplémentaires en alerte. Le chef du gouvernement qui précise que 2 projets d'attentats ont été déjoués en France depuis le début de cette année. Et puis invité du 20h de France 2, il y a quelques minutes, Gérald Darmanin affirme lui que la menace est très élevée, que nous devons nous armer face à elle. Le ministre de l'Intérieur qui ajoute qu'elle touche toute l'Europe et tout l'Occident. Fin de citation. Les journalistes de la Provence votent la fin de la grève entamée vendredi. Le mouvement avait vu le jour en raison de la mise à pied du directeur de la rédaction à la suite d'une une sur la visite d'Emmanuel Macron à Marseille, jugée ambiguë par la direction du quotidien. Il a été réintégré ce matin. Une nouvelle bouffée d'air pour Donald Trump. La cour d'appel de l'État de New York ramène en effet de 419 à 161 millions d'euros la somme que l'ancien président américain doit payer sous 10 jours à la suite de sa condamnation au civil pour fraude financière.
France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
On parle de la Russie, de l'Ukraine, de la menace terroriste après l'attentat de vendredi. Paul Quignot est là pour Libération. Patricia Lémonière, spécialiste des questions internationales et grand reporter. Quentin Calmé pour Public Sénat. Guillaume Ancel, l'ancien officier. Et Sylvain Tronchet, et après on vous libère, correspondant de France Info, à Moscou, sur le débat qui était en cours sur la façon dont les choses se sont déroulées et le lien éventuel avec l'Ukraine.
Sur ce point qui est régulièrement évoqué par Vladimir Poutine et les autorités russes, de savoir vers où se dirigeaient les terroristes, il y a plusieurs éléments. Un, la frontière ukrainienne, effectivement, ça a été dit, est extrêmement militarisée. Il y a des gardes frontières du FSB partout autour. Ça paraît extrêmement difficile à franchir. Deux, la route de la Biélorussie, c'est la route de la fuite de la Russie. Elle a déjà été utilisée depuis le début par un certain nombre d'opposants qui ont réussi à passer par la Biélorussie. On sait qu'il y a des filières d'évacuation qui passe par la Biélorussie parce que c'est une frontière très poreuse, parce qu'il y a de moins en moins de frontières précisément entre les deux pays et que derrière de la Biélorussie, on peut passer plus facilement en Union européenne. Enfin, concernant l'endroit où ils auraient été arrêtés, l'endroit qui est aujourd'hui indiqué par les autorités russes n'est pas l'endroit qui avait été initialement indiqué par une chaîne Telegram qui est réputée très proche du FSB, qui diffuse tout un tas de vidéos à longueur de journée qui lui sont manifestement fournies par le FSB. Elle est totalement connectée, en fait. C'est le service communication du FSB, BASA, en quelque sorte. Et dans un premier temps, le lieu qu'ils avaient donné comme lieu d'arrestation des terroristes était situé à seulement 40 km de la frontière biélorusse, avant que les choses ne soit corrigé au profit d'un lieu qui était finalement plus éloigné de la Biélorussie et plus proche de l'Ukraine. C'était un simple constat.
Merci beaucoup Sylvain Tronchet. On vous libère, correspondant de France Info à Moscou. Je voudrais qu'on évoque la menace donc ravivée en France, le plan Vigipirate qui rebascule dans son seuil maximal. Gérald Darmanin dit ce soir aux 20h de France 2, l'État islamique est capable désormais d'enclencher des attentats à distance.
Alors, en fait, il a toujours été.
Et on revient au réveil de l'État islamique, tout à fait. Mais dont on pensait qu'il avait été décimé. Enfin, c'est aussi ça.
On n'a jamais cru qu'il avait disparu, mais on espérait qu'ils avaient d'autres questions actuellement, qu'ils étaient très affaiblis, notamment en Afghanistan, du fait que les talibans aient pris le pouvoir. Et comme on le rappelait tout à l'heure, ils ne sont pas vraiment amis. Ils manquent de base en Syrie, ils manquent de base en Afghanistan, ils ont du mal à se réorganiser. Le fait qu'ils aient frappé en Russie là, pour moi, est très lié à l'attentat qui a eu lieu en Iran. C'est-à-dire qu'ils cherchent bien à mettre en difficulté le pouvoir russe. Le fait qu'on craigne, nous, un attentat, c'est lié au contexte. Le président Macron ne peut pas se permettre de faire comme Poutine, de dire « je balaye l'inquiétude » en disant « c'est un stress inutile pour
vous
ma société ».
Vous dites « contexte », c'est quoi, c'est cet octobre ?
Le fait qu'il y ait eu cet attentat.
C'est Moscou.
Dès qu'il y a un attentat important dans une capitale, en fait, toutes les capitales se mettent en état d'alerte. Je suis sûr que la plupart des grandes capitales européennes ont fait la même chose ce soir. Et comme en plus, on est maintenant à quelques mois des Jeux Olympiques, on est obligé de prendre cette mesure parce que personne ne pardonnerait au gouvernement français de ne pas l'avoir prise. Donc c'est pas parce qu'on a une indication précise d'un risque d'attentat, c'est juste parce que, de fait, on est obligé de fermer les trappes de secours.
Gabriel Attal, on va l'écouter, a quand même évoqué deux projets d'attentats déjoués en France au début de cette année, notamment, et des menaces sur la France et l'Allemagne et l'Europe en général. Écoutez.
Nous avons des résultats. 45 attentats ont été déjoués depuis 2017 et depuis le début de cette année, il y a quelques mois seulement, déjà deux projets d'attentats ont été déjoués dans notre pays. Tous les premiers éléments qui sont à notre disposition attestent du fait que la branche de l'État islamique qui a revendiqué l'attentat de Moscou est une branche de l'État islamique qui a développé plusieurs projets d'attentats visant des pays européens, notamment la France et l'Allemagne, ces derniers mois. Et qu'un projet visant la ville de Strasbourg avait notamment été identifié. Et heureusement, nos services ont pu interpeller les personnes qui visaient de s'en prendre à la ville de Strasbourg et à ses habitants.
Quentin Calmet, oui. Il était cet après-midi donc à la gare Saint-Lazare, est allé visiter les personnels mobilisés, les sentinelles mobilisées.
On parle de ce sujet depuis des mois aussi parce que les JO arrivent. Il y a ce contexte d'une sécurisation. Oui, avec en plus la flamme olympique qui arrive le 8 mai. Donc à partir du 8 mai, c'est ce qu'a dit Gérald Darmanin en audition devant les sénateurs, c'était début mars. À partir du 8 mai jusqu'à la fin août, le ministère de l'Intérieur est sur les dents en matière de sécurité pour sécuriser les JO, avec en plus
L'Euro de foot qui se tient au mois de juillet aussi. Également le Tour de France, également des concentrations d'événements. Et donc, c'est ce qui avait fait dire à Darmanin qu'il n'y aura jamais eu une telle concentration d'événements en France sur une telle période avec au total 13,5 millions de spectateurs rien que pour les JO cet été à Paris. Dans ce contexte, et donc au lendemain d'un attentat, on comprend que l'exécutif veuille prendre les devants et au lieu de déclencher le plan attentat à 6 semaines du début de l'arrivée de la flamme olympique, prend les devants et maintenant fait de la communication politique autour de l'événement.
Sauf que ce qui est compliqué à comprendre quand même, si je peux me permettre, c'est que ce plan Vigipirate seuil maximal soit activé, désactivé, activé, désactivé. Il a été au moment de la mort de Dominique Bernard, il a été désactivé mi-janvier. C'est un drôle de fonctionnement et je pense que c'est
difficile. En même temps, c'est qu'il y a des hommes sur le terrain et il faut quand même que les hommes soufflent un peu de temps en temps et en général, quand on le désactive,
on le dit pas trop,
si vous voulez, quand on désactive. Mais
il y a une autre raison aussi à ça, c'est que c'est aussi un niveau de sécurité qui entrave les libertés publiques. Donc c'est aussi une bonne chose que ça soit pas non plus décrété de manière indéfinie. Ça l'a été après l'attentat à Arras, si je me trompe pas.
Oui, c'est après l'attentat.
Pendant 72 heures, me semble-t-il. Donc voilà, ils sont dans un équilibre qui est compliqué, mais heureusement qu'on est aussi face à cette préoccupation-là de faire attention à la préservation des libertés publiques et bien sûr de la sécurité. Ils n'ont pas le choix de imaginer ce qui se passerait s'il y avait une catastrophe avant les JO ou pendant les JO.
Et là, d'autant que le président est absent, part en voyage à l'extérieur. Donc, il y a cette absence. Et ce qu'il redoute le plus, parce que le contexte international est tendu, il ne faut pas oublier le contexte de Gaza, qui est important aussi dans la menace terroriste endogène. Et c'est bien ça, là, ça veut dire local. On voit qu'il y a quelques jours, il y a un adolescent qui était arrêté à Lille, qui menaçait ou qui prévoyait de s'en prendre et de faire un attentat, enfin d'avoir un acte terroriste. Donc il y a bien une menace qu'on appelle endogène.
En quelques mots, et puis on va poursuivre sur tout ça après le point sur l'info.
C'est juste un problème de proportion de moyens qu'on peut mettre. Là, quand on est dans cet état-là, on est plutôt à 110 ou 120%. Et donc forcément, on essaye de réduire après sans le dire, parce que sinon, on ne peut pas tenir dans la durée.
On poursuit sur tout ça après le point sur l'info, puisqu'il est 20h30 sur France Info. Bonsoir Édouard Marguier.
Bonsoir Bérangère, bonsoir à tous. Le ministre de l'Intérieur revient sur le risque terroriste. La menace est très élevée et nous devons nous armer face à cette menace, déclare Gérald Darmanin. Aux 20h de France 2, le plan Vigipirate a été remis à son niveau maximal. Pour lui, un attentat est déjoué tous les 2 mois en France. Le Premier ministre avait d'ailleurs indiqué que 2 projets d'attaque avaient été déjoués depuis le début de l'année en France. Le vote de l'ONU sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, salué dans le monde entier, de l'Espagne à l'Afrique du Sud, en passant par la France. La résolution des Nations Unies doit être mise en œuvre, réagit le ministre des Affaires étrangères. Texte adopté grâce à l'abstention des États-Unis au Conseil de sécurité et conspué par Israël qui ne semble pas vouloir l'adopter selon les premières déclarations. Le maire d'Orléans fait part de sa colère. L'ex-LR Serge Grouard dénonce une arrivée de migrants dans sa ville qui serait, selon lui, déplacée en catimini pour faire place nette à Paris avant les Jeux Olympiques. Ce sont ses mots et ses informations. Faute de renseignements, il dit avoir croisé les données avec celles d'associations. Il évoque 500 migrants SDF transférés depuis un an dans sa ville d'Orléans. Les JO qui ne déchaînent pas les foules, un peu plus d'un tiers des personnes interrogées sont impatients de vivre la compétition. 37% précisément, selon le baromètre Via Voice pour les Assises internationales du journalisme de Tours, publié en partenariat avec Radio France, France Télévisions, France Média Monde et Ouest France. Elle a été justement championne paralympique à 8 reprises. La skieuse française Marie Bochet prend sa retraite à l'âge de 30 ans. Fin de carrière sans skier aujourd'hui, puisque la dernière course de la saison est prévue en Italie a été annulée pour raison de sécurité.
France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Les informés ce soir, Quentin Calmet, journaliste politique et parlementaire à Public Sénat, Patricia Lémonière, grand reporter spécialiste des questions internationales et auteur du livre Au cœur du chaos aux éditions Artaud, Paul Quignot, directeur délégué de la rédaction de Libération, et Guillaume Ancel est là, l'ancien officier et écrivain. Je cite votre livre, Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette, c'est chez Flammarion. C'est pas tout à fait notre sujet, hein. Ce soir, on était sur la menace terroriste telle qu'elle est formulée avec toute la complexité que vous avez les uns les autres très bien exprimé de la complexité d'en dire le moins possible, évidemment, mais vous avez suivi, vous, de près, Quentin Calmet, l'audition de Gérald Darmanin.
Le 5 mars dernier, au Sénat. Devant la commission des lois du Sénat, qui mène une mission de contrôle.
Qu'est-ce qu'il disait?
Sur la sécurisation des JO, et donc d'ailleurs on attendait le rapport mercredi, le rapport est décalé de 15 jours, on aura ce rapport sénatorial dans 15 jours, suite aux derniers événements, on voit qu'il faut vérifier les conclusions de ces conclusions sénatoriales. Mais quand il est interrogé effectivement par les sénateurs, il y a une ambiguïté dans ce qu'il dit, il dit même si Al-Qaïda et l'État islamique ont l'intention de frapper la France, nous n'avons aucun renseignement, aucun retour même de nos alliés qui nous laisserait à penser qu'ils en ont les moyens, même s'ils en ont bien l'intention. Même s'il ajoute aussi immédiatement, et c'est ce qui fait qu'il est constamment entre deux positions, il dit que depuis un an, le risque est extrêmement élevé, donc il continue à maintenir une forme de pression. Et à ce moment-là, il y a aussi la directrice générale de la sécurité intérieure qui est auditionnée, parce qu'il est accompagné du préfet de police de Paris, tout un cercle de personnes qui sont en charge de la sécurité. Elle dit qu'effectivement, ils sont en train de créer une nouvelle instance de la DGSI pour regrouper tous les signalements en vue des JO, éviter tout trou dans la raquette. On voit qu'il y a une mobilisation très forte à ce moment-là, mais aucune menace clairement identifiée sur laquelle ils peuvent même témoigner sous serment devant la commission à ce moment-là.
Bon, il en dit beaucoup plus ce soir, mais les faits, c'est ce qui s'est passé à Moscou qui justifie cette explication. C'est-à-dire il faut donner une explication,
Guillaume Sal. Ce qui est quand même très intéressant, c'est de voir Poutine qui va être obligé de dénoncer une opération terroriste. Je voudrais juste rappeler un événement qui a eu lieu la semaine dernière, qui a lieu toutes les semaines. Il a fait tirer un missile sur Odessa, sur une cible civile, et un deuxième missile 15 minutes après pour être sûr que ce soit les secouristes qui soient fauchés. Donc les opérations terroristes, les attentats, c'est toutes les semaines par Moscou. Et là, ils sont confrontés à une action terroriste. Ça doit être très dur pour un Poutine de dénoncer un attentat dans ce contexte. J'aimerais pas être à sa place.
Oui, ce que vous voulez vous dire, c'est que quand frappe en Irak ou ailleurs, il y a une première bombe qui explose, et puis après... Les secouristes arrivent, chaque fois ça s'est passé effectivement comme ça, et il y a ou un nouveau kamikaze ou une nouvelle voiture piégée qui explose pour faire le maximum de victimes. Effectivement, ça signe en général les attentats de type terroriste.
Alors, vous avez commencé à faire le lien, oui. Patricia Lémonière, avec Gaza. Oui. Il faut qu'on dise un mot avant que vous poursuiviez peut-être cet aspect-là des choses. Simplement un mot factuel sur la décision, sur le vote de cette résolution au Conseil de sécurité de l'ONU, qui pour la première fois aujourd'hui adopte et exige un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Ce qui change, c'est l'abstention des Américains.
Ben oui, ça change. Ben on voit d'ailleurs la réaction israélienne.
Voilà, alors les Israéliens qui ont déjà dit qu'ils n'arrêteraient la guerre qu'une fois les otages libérés, disent aussi qu'ils n'iront pas à Washington. C'est un tournant ou c'est...
Probablement. En fait, la question que pose aujourd'hui cette décision du Conseil de sécurité, qui ne peut pas s'imposer, de toute façon les Israéliens feront comme d'habitude, ou plutôt Netanyahou fera ce qu'il veut, c'est la question de faut-il laisser ce permis de tuer que Netanyahou s'est octroyé après l'attentat terroriste du 7 octobre. Et aujourd'hui, on est probablement autour de 50 000 morts à Gaza. C'est une guerre sans fin. Chaque semaine, les Américains demandent au gouvernement Netanyahou de cesser. Et chaque semaine, Netanyahou repousse le tas de sable un peu plus loin parce qu'en fait, son véritable objectif, ça n'a jamais été de détruire le Hamas, c'est de transformer en champ de ruines la bande de Gaza pour que les Palestiniens soient obligés de fuir. Donc ça pose un problème. Et moi, je pense qu'il faut retirer le permis de tuer de Netanyahou aujourd'hui.
Paul Quignot, quel poids ça a, cette résolution, selon vous? Est-ce que c'est un tournant ou pas?
Tournant, je ne sais pas. C'est en tout cas très révélateur des tensions qui montent depuis plusieurs semaines entre Netanyahou et Biden. Voilà, on sent bien que, d'abord, Biden est embêté sur la scène intérieure à cause de ce conflit, alors qu'il est en campagne présidentielle. Donc, il essaye de tordre le bras à Netanyahou, mais il n'y arrive pas. Donc oui, c'est un tournant. Je le relativise aussi quand même parce que les États-Unis continuent de livrer des armes et des armes à Israël. Donc voilà, il y aura un tournant quand il y aura des décisions concrètes. Là, la résolution, on ne sait pas si elle sera suivie des faits. Il y a pour l'instant même peu de chances qu'elle le soit. Donc, de tournant relatif, je dirais.
Ce que vous voulez dire, c'est que... Elle n'est pas coercitive.
Personne n'est dupe, finalement. Les Israéliens sont relativement tranquilles ou quand même pas complètement avec ça.
Non, pas complètement, parce que c'est quand même pas rien. Un vote et une abstention. Jusqu'ici, les États-Unis avaient toujours refusé de s'associer à une résolution de ce type. Et même s'ils ont été battus, entre guillemets, la semaine dernière, parce qu'ils avaient eux-mêmes proposé une résolution qui a été rejetée à cause du veto américain et russe, là, ils se sont quand même abstenus. Donc, ça veut dire qu'il y a une pression qui s'accentue sur Israël. Mais elle est relative.
Oui, Patricia Lemonnière.
Effectivement, je pense qu'il y a une pression qui montre complètement l'irritation américaine. Mais l'irritation américaine, elle n'est pas plus coercitive vis-à-vis de la résolution des Nations Unies. Parce que tant qu'il n'y a pas de mesure associée à une résolution qui implique une coercition... Les résolutions, finalement, elles sont en théorie obligatoires. Hein. Ceux qui sont concernés doivent appliquer. Mais là, effectivement, comme vous l'avez dit très justement, Benjamin Netanyahou va s'asseoir, en quelque sorte, sur cette résolution, parce que il l'a dit d'ailleurs tout de suite. Mon équipe qui devait aller rentre. Galland, qui était là-bas pour négocier des armes, eh bien, il va rentrer aussi. Et puis, moi, je m'assois dessus et je continue mon objectif, parce que son objectif, il reste toujours le même. Mmh. Et au même moment, l'UNRWA, qui est en guerre, en quelque sorte, avec l'ARVE, enfin...
L'Agence des Nations Unies. L'aide aux réfugiés palestiniens.
Dénonce Israël en disant qu'ils ne peuvent plus acheminer du tout de l'aide. C'est niet côté israélien chaque fois qu'ils veulent essayer de reprendre. Donc, il y a cette politique de famine, en somme, qui est orchestrée et qui devient intolérable pour les États-Unis et qui fait beaucoup de tort à l'Occident global, le fameux Occident global dénoncé par tout le Sud global, parce que on nous associe à tort ou à raison à la politique menée par Israël. Et en nous associant à tort ou à raison à cette politique menée à Gaza, eh bien, on fabrique du mécontentement à l'extérieur vis-à-vis de nous, mais aussi à l'intérieur.
Mmh. Quant à calmer.
Oui, effectivement, et ce qui explique le changement de position des États-Unis au sein du Conseil de sécurité et leur abstention, qui est la nouvelle donne de ce qui s'est passé aujourd'hui, et parce qu'il y a Joe Biden qui est sous une forte pression dans son pays, dans son propre camp, chez les démocrates. On a vu une représentante démocrate à Alexandria, Ocasio-Cortez, qui est très connue sur les réseaux sociaux, qui a fait un plaidoyer à la Chambre des représentants aux États-Unis pour aller encore plus loin que tout ce que les démocrates avaient pu dire dans leur dénonciation de ce qui se passait à Gaza, parlant de génocide. C'était ce week-end. Elle a expliqué en disant qu'elle était allée aussi loin dans l'utilisation de ce terme parce qu'il y avait maintenant comme ça des faisceaux de preuves pour le dire. Et donc, ce mouvement des démocrates qui pousse Joe Biden dans ses retranchements a fait que la position américaine a dû bouger au Conseil de sécurité des Nations Unies.
Pour boucler la boucle, Guillaume Ancel, le lien, vous le faites, vous aussi, entre l'attentat de Moscou, revendiqué par l'État islamique, et l'évolution de ce qu'on se raconte là sur Gaza.
Ce qui est certain, c'est que Poutine a beaucoup profité de la guerre au Proche-Orient, à un moment où le front aurait pu basculer. Et cet attentat ne l'arrange absolument pas. Et de l'autre côté, du côté israélien, je pense que Netanyahou est allé beaucoup trop loin. C'est ce qu'on craignait, c'est qu'aujourd'hui, il met en péril le soutien international à Israël à cause de sa politique complètement démentielle contre la bande de Gaza. Parce qu'en réalité, il ne s'attaque pas au Hamas, il s'attaque aux Palestiniens. Et ça n'est pas acceptable.
Merci beaucoup Guillaume Ancel. Je vais vous demander de donner le nom du blog parce que je ne l'ai pas noté.
C'est Ne pas subir.
Ne pas subir, évidemment.
Je recommande à tout le monde.
Je le cite à chaque fois et il m'était sorti de la tête. Merci infiniment. Votre livre, également Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette chez Flammarion. On marque une pause, le temps de passer par le fil info et puis on parle des handicapés. 20h41, Emmanuel Langlois.
Après des mois de silence, le Conseil de sécurité de l'ONU a donc pour la première fois exigé un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Les États-Unis se sont cette fois abstenus. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, salue l'adoption de cette mesure en signe de protestation. En revanche, Israël annule la venue d'une délégation à Washington. En France, Gabriel Attal affirme que deux projets d'attentat ont été déjoués depuis le mois de janvier. En déplacement, Gare Saint-Lazare à Paris, le chef du gouvernement a annoncé 4000 militaires supplémentaires de la force Sentinelle étaient désormais mobilisables. Invité ce soir du 20h de France 2, Gérald Darmanin a lui affirmé que l'État islamique était capable désormais d'enclencher des attentats à distance. Le ministre de l'Intérieur qui annonce par ailleurs que près de 500 personnes ont été arrêtées en France dans le cadre des opérations contre la drogue baptisée PlaceNet XXL, initiée il y a une semaine à Marseille. Et puis un mot de football, Daniel Alves va pouvoir sortir de prison, annonce du tribunal de Barcelone en Espagne. Le footballeur a payé sa caution d'1 million d'euros. L'ancienne star du Barça et du Paris Saint-Germain a fait appel de sa condamnation le mois dernier à 4 ans et demi de prison et 150 000 euros d'indemnité pour viol.
France Info.
20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
En compagnie ce soir de Paul Quignot de Libération, Patricia Lémonière, spécialiste des questions internationales et grand reporter, Quentin Calmet de Public Sénat. Comment la France traite-t-elle ses enfants et adultes handicapés? C'est pas le premier documentaire, faut le dire, qui tire la sonnette d'alarme, mais le magazine Zone Interdite, hier soir, sur M6, déclenchera-t-il une prise de conscience durable et surtout suivie de faits comme pour les EHPAD, vous vous souvenez, Les Fossoyeurs, le livre de Victor Castanet il y a 3 ans. C'est toute la question. Alors que Fadila Khattabi, la ministre déléguée chargée des personnes âgées et des personnes handicapées, annonce sur France Info un grand plan de contrôle des 9300 établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap. Alors elle se dit choquée par les témoignages évidemment entendus hier, comme on va en entendre un court extrait de ce documentaire, les parents de Gaëtan, qui est un autiste de 27 ans et qui est resté un mois en réanimation.
Dans le monde du handicap, c'est tellement plus facile d'être malveillant et d'être dans la violence, la maltraitance, parce qu'il n'y a pas de retour. Nos enfants ne viennent pas nous raconter ce qu'ils subissent.
Un jour, dans les couches que porte Gaëtan, son père aurait même découvert l'impensable.
Ça, c'est un gant que je retrouve dans ses selles. Ça, c'est un pansement.
C'est un gentil, ils nous l'ont détruit. J'ai une telle colère, je suis vraiment... Je leur en veux, en fait. Je leur en veux tellement.
Voilà, le documentaire dans son intégralité, évidemment, disponible en replay. Il aura fallu un documentaire de M6 pour qu'une ministre en charge des personnes handicapées annonce un plan, Paul Quignot.
Oui, c'est assez terrible, en fait, d'apprendre. Enfin, on n'apprend pas, en fait, parce que tous les gens qui travaillent sur ces sujets-là savaient, en fait, ce qui se passe souvent dans
les instituts. Mais la ministre le dit ce matin, d'ailleurs. On sait qu'il y a des maltraitances.
Ouais. Et on le sait depuis longtemps. Et alors là, il y a un plan d'inspection. Pourquoi pas? C'est plutôt une bonne idée. Les moyens qui sont mis et les renforts en termes d'inspecteurs me paraissent dérisoires par rapport au travail qu'ils vont avoir à effectuer.
Il y en a aujourd'hui 130. Pour 9300 établissements.
Voilà, donc le travail va être colossal. Je ne sais pas comment ils vont faire. Donc ça pose évidemment la question des moyens à la fois dédiés à ce travail d'inspection, mais aussi plus globalement aux moyens qui sont mis dans ces institutions. Même si il y a une autre raison, je pense. Là, on parle des gens qui sont les plus vulnérables parmi les vulnérables. Donc, on sait que c'est toujours les premières victimes ou les victimes les plus tragiques de ce type de choses. On parle là de violence. Nous, on a interviewé aujourd'hui quelqu'un à Libération qui parlait de viol, de brûlure de cigarettes. Donc voilà des choses qui sont évidemment totalement insensées et invraisemblables. Et donc il y a cette question là que les gens le savaient. Il y a aussi une autre raison, et c'est les vulnérables parmi les vulnérables, et qui en plus sont dans une espèce de huis clos, puisque ces institutions souvent sont des lieux qui sont fermés. Et donc c'est une deuxième raison qui explique qu'on a sans doute pas pris la mesure de ce qui se passait dans ces endroits-là. Et derrière la question de ces huis clos-là, il y a, je pense, le côté non inclusif de la politique en France à l'égard des handicapés. Parce que
de manière plus générale, vous voulez dire?
De manière plus générale, puisque là... Enfin,
vous voulez dire que l'image de leur absence, presque leur invisibilité, ouais, n'aide pas à
lever le capot, si j'ose dire. Donc,
est-ce que c'est propre à la France, ça, alors, Patricia Lémonière?
Oui, enfin, moi, pour revenir, pour développer ce que vous dites, il y a ces handicapés lourds, et puis il y a toutes ces familles qui ont ces gosses qui vivent à la maison et qui veulent aller à l'école. Et ces écoles, moi, ça, ce documentaire m'a beaucoup touchée parce que il y a la séquence de ce petit Kevin abominable, effectivement. Et puis, il y a l'autre de ce petit qui veut aller à l'école et avec sa maîtresse qui est en théorie spécialisée pour accueillir dans les classes un certain nombre de ses enfants et qui s'en moque totalement, enfin, qui n'est même pas formée. Donc, effectivement, moi, je trouve que la France... Je ne sais pas où passe notre argent, comment elle est organisée, mais par rapport à certains pays étrangers, ne serait-ce que nos voisins belges savent accueillir, ils ont des centres d'accueil. Et pour le viol, les plus âgés aussi, nos plus âgés qui ne sont pas du tout handicapés, ils ont une politique du vieil âge beaucoup mieux que la nôtre. Donc comment ça se fait que notre France... veuille toujours se parer en quelque sorte de la jeunesse, de la beauté, du dynamisme, etc. Mais alors, dès que ça touche aux vieux, aux handicapés, on met la poussière sous le tapis en quelque sorte. Et là, dans ce magazine, ce que l'on dénonce en plus, c'est que ces instituts très spécialisés hein, pour les handicapés lourds, eh bien, leur nombre doit diminuer. Alors qu'on sait que le nombre d'handicapés va plutôt augmenter, lui, puisque la population augmente. Donc... Je suis très gênée par ça, parce qu'on met vraiment en France la poussière sur le tapis, et je suis peut-être la première à ne pas vouloir le voir aussi, moi aussi, le drame de ces familles qui ont en charge aussi ces handicapés. Non seulement il y a la souffrance des handicapés, mais il y a la souffrance des familles.
Et c'est souvent des familles qui n'ont pas d'autres solutions, voilà, qui disent on n'a rien pu faire, on n'a rien pu dire.
Un certain nombre de témoignages.
Parce qu'on n'avait pas d'autres solutions, ouais. Soit dans des. Alors si on des gens qui peuvent aller à l'école. L'inclusivité à l'école, on est en retard en France par rapport à d'autres pays. On est très en retard. Donc c'est,
pourquoi
voilà, c'est des familles aussi qui sont démunies parce qu'elles n'ont pas le choix et pas de solution.
Il y a des écoles, et on en fait régulièrement des reportages, où ça fonctionne. Là où il y a du personnel...
Oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de personnel.
Voilà, mais je veux dire, il y a aussi...
Formé.
Voilà, vous parliez de cette enseignante spécialisée
qui n'était pas formée ou qui s'en moquait. Mais il y en a où ça marche.
Voilà, il y en a beaucoup qui marchent. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est que... je disais que c'était pas le premier documentaire. Moi, j'en ai retrouvé deux d'il y a un an. Qui était censé, dont un, trois ministres avaient assisté à la projection, présentation, et qui disait plus rien ne sera comme avant. Et il y a aussi eu ces états généraux de la maltraitance, quant à calmer, suite au scandale Orpea.
Oui, on sent.
Et là, on a tout passé en revue. Il y a deux ans.
Oui, face à ces documentaires, le politique est sommé de réagir, et la ministre, vous le disiez, a immédiatement annoncé un plan qui doit être présenté lundi. Avec des contrôles systématiques dans les 9200 centres qui accueillent des enfants et des personnes handicapées, des contrôles qui vont s'étaler entre 2025 et 2030. Ouais. Donc on parle de perspective à 6 ans.
Faute
de moyens, et avec des situations qu'on voyait dans l'extrait notamment, et des situations révoltantes chez des personnes qui sont en ce moment accueillies dans de mauvaises conditions. Et d'ailleurs, la ministre qui a qui sort un communiqué de 3 pages aujourd'hui, où elle reprend point par point les thèmes sur lesquels elle dit qu'il va y avoir des poursuites judiciaires, elle veut répondre à toutes les séquences problématiques en disant aussi, ne jetons pas l'opprobre sur toute la profession, il y a aussi des gens qui font très bien ce travail, et elle dit qu'elle elle voit ça, cette passion chez beaucoup de gens. Elle ne veut pas tout jeter non plus d'un coup, et elle réagit en étant très précise sur tous les manquements et sur certains établissements qui sont pointés du doigt. On voit qu'il y a comme ça une communication politique qui s'organise aussi très précisément sur ce qui est dans le documentaire.
Dans le documentaire, on voit des infirmières qui sont formidables, hein, ou des aides-soignantes, hein, qui disent « je gagne 3 fois rien, mais c'est ma vie, j'y passe tout mon temps ». Donc, il y a des gens qui se sacrifient, effectivement, et qui donnent énormément d'eux-mêmes dans ce genre de métier. Le problème, ce sont les moyens. France n'a pas les moyens, je m'interroge. Est-ce qu'un pays comme le nôtre n'a pas les moyens, ne peut pas flécher vers ces secteurs-là, qui sont quand même laissés de côté ?
Témoignage juste après le fil info de 20h51, Emmanuel Langlois.
Le ministère de l'Éducation annonce que près de 130 lycées et collèges ont été visés depuis la semaine dernière par des menaces d'attentats et des actes malveillants via les espaces numériques de travail, ces espaces internet partagés par toute la communauté éducative en Île-de-France, dans les Hauts-de-France, mais aussi la région Grand Est. Un opposant au projet d'autoroute A69 entre Toulouse et Castres, condamné à 6 mois de prison ferme par le tribunal de Castres, Il était accusé d'avoir lancé une pierre sur un gendarme fin février à Seyze dans le Tarn. Le prévenu compte deux mentions à son casier judiciaire. Il a nié les faits à l'audience. Un demi-millier de manifestants réunissent lundi devant le site de l'usine Metex à Amiens dans la Somme. Vendredi dernier, l'entreprise avait été placée en redressement judiciaire avec une période d'observation de 6 mois pour tenter de trouver des repreneurs ou des investisseurs. 300 emplois au total sont directement menacés. Et puis 10 personnes blessées ce lundi par des débris de missiles russes abattus à Kiev. C'est une nouvelle preuve, selon l'Ukraine, de son besoin urgent de systèmes de défense aérienne fournis par les Occidentaux. Il s'agit en tout cas de la 3e attaque aérienne russe sur la capitale ukrainienne en 5 jours.
France Info.
20h-21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Avec Paul Quignot de Libération, Patricia Lémonière, grand reporter, Quentin Calmé de Public Sénat, on évoque ce plan qui est annoncé par le gouvernement pour les personnes atteintes de handicap dans les centres, à domicile, les contrôles, etc. On va écouter la réaction de Pascal Chanvert qui préside l'association des directeurs au service des personnes âgées. Lui, il dit on est un pays du tiers-monde hein, sur le aide au handicap comme pour les personnes âgées. Il fait le lien entre les deux situations. Écoutez Pascal Chanvert.
Il n'y a rien de neuf et tout ça n'est pas sérieux. Il faut faire des contrôles quand on suspecte les 3 à 5% d'établissements et de professionnels qui dysfonctionnent. Ceux-là, évidemment, il faut les contrôler, il faut les mettre hors d'état de nuire. Ce qui dysfonctionne fondamentalement, ce sont les pouvoirs publics. Dans le secteur de l'aide aux personnes âgées, les difficultés dans les établissements et à domicile sont liées au manque de personnel. Un simple chiffre, dans la plupart des pays européens, il y a au minimum 8 professionnels pour 10 personnes âgées dans les établissements, ce que recommande la Défenseure des droits, la Cour des comptes, le Haut Conseil de l'âge. Aujourd'hui en France, on est à peine à 6 pour 10.
Ça se passe de commentaires aussi, ça. Je veux bien votre commentaire quand même, Paul Quignot.
Oui, c'est vrai que c'est un problème qui concerne énormément de personnes. Je voulais aussi revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté. Moi, ce qui me frappe, c'est bien de faire des contrôles. C'est un côté coercitif. Mais je pense que ça ne réglera pas le problème. Je pense qu'il y a aussi besoin de donner des moyens et des nouveaux outils pour prendre en compte la parole des handicapés. Je pense qu'on est avec les handicapés aujourd'hui un petit peu comme on était avec les enfants il y a 20 ans.
Alors, la ministre évoque ça aussi ce matin.
Il y a des outils qui existent. Les gens qui travaillent avec les handicapés le savent. Il y a des outils qui existent pour aider les handicapés à s'exprimer, à parler, voilà. Ou même quand ils ne peuvent pas parler, à communiquer et à dire des choses. On m'a raconté cet après-midi un exemple d'un jeune garçon qui avait été violé et qui ne pouvait pas parler et qui a réussi à le dire grâce à des outils spécialisés pour l'aider à communiquer.
C'est des tablettes, c'est des cahiers d'expression voilà. À la personne.
Et ça, c'est de mon point de vue beaucoup plus important que de faire des inspections qui peut-être dureront 3 heures ou un après-midi dans un établissement.
Je voudrais votre regard sur une mesure qu'elle annonce également, la vérification des antécédents judiciaires de tous les intervenants dans les établissements, même dans les structures d'aide à domicile, même pour les bénévoles. Manifestement, il y a eu des cas de maltraitance commises par des personnes qui avaient été condamnées. Est-ce que pour autant, on contrôle tout à l'embauche ? Enfin, quel regard vous avez ça là-dessus ? On t'a calmé.
Je sais pas. En tout cas, j'ai retenu aussi hein, ces annonces sur le fait de pouvoir comme ça franchir la barrière effectivement de la communication qui est essentielle. On parle aussi d'enfants qui sont autistes, on parle aussi d'enfants qui ont des problèmes, des troubles pour communiquer. Et effectivement, la ministre dit que d'ici fin 2025, il faudra qu'il y ait dans tous les établissements des processus pour permettre la communication parce que effectivement, il y a une omerta, quelque chose d'indicible, de l'ordre de l'indicible pour les victimes qui sont lourdement handicapées, de même comprendre les questions qu'on leur pose. Donc c'est ce qui rend terrible ces situations et qui rend extrêmement difficile le fait de déceler ces situations problématiques lorsque vous avez des enfants qui ne peuvent pas communiquer, qu'on voit dans le documentaire, qui sont dans une bulle et dans un monde qui est impossible de comprendre pour nous qui sommes effectivement en train d'essayer de communiquer avec eux.
Oui, alors, Patricia Lémonière, pour répondre à votre question, c'est toute la question du tout sécuritaire. C'est toujours très gênant de dire on va contrôler vos antécédents. Il n'empêche que Moi, je préférerais savoir que la personne a été déjà violeur si je dois confier mon enfant ou mon grand-père ou ma grand-mère à un institut. C'est une question qui est très difficile et je crois là, c'est nos juges, nos avocats, enfin c'est l'arsenal juridique français qui doit voir comment garantir à la fois nos libertés individuelles et en même temps garantir un minimum de sécurité à ceux qui n'ont pas les moyens, pas le discernement. On demande bien, ma foi, à ceux qui assurent la sécurité publique dans les boîtes privées, j'entends, leurs antécédents judiciaires. Alors, ma foi, il y a sûrement une marge de manœuvre à avoir, mais en tout cas, il ne faut plus permettre que des gens qui ont un passif judiciaire puissent s'occuper de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Ça, ce n'est pas possible.
Ce sera le mot de la fin sur ce dossier, à moins que ce soit la une de Libération demain, peut-être, Paul Quignot.
Pas du tout. La une de Libération, c'est sur Macron qui est dur de la feuille sur la question de l'augmentation de certains impôts, notamment auprès des super-profits et des gens les très, 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 très riches.
C'est on aura demain, seul, d'ailleurs. Ouais, on aura demain les chiffres de l'INSEE,
voilà, c'est pour
du
ça
déficit
qu'on...
public, et j'avais bien imaginé que ça puisse être lié. Quentin Calmet, on vous suit sur Public Sénat. Patricia Lémonière, je rappelle, Au cœur du chaos, c'est votre livre aux éditions Artaud. Demain, Les Informés, 9h, Salia Braquilla, Renaud Dely, et nous, on sera là dès 20h. Bonne soirée.